d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est un argument de vente, vue sur mer. Mais à force de construire trop près des côtes, les hommes accélèrent le phénomène d'érosion du littoral. En France, l'érosion menace un quart des côtes et plus particulièrement la côte aquitaine. Dans le sud-ouest, on estime que la côte sableuse pourrait reculer de 50 mètres d'ici 30 ans et que 5800 logements pourraient disparaître. C'est déjà le cas d'un immeuble collectif de 80 appartements. Il est à Soulac-sur-Mer en Gironde. Le Signal, c'est son nom, menace de s'effondrer et les propriétaires bataillent toujours pour se faire indemniser. Reportage en Gironde de Frédéric Lebel.
Sur la plage de Soulac-sur-Mer, les camions s'activent. Dans un ultime sursaut désespéré, ils ramènent du sable pour consolider la dune. L'immeuble du Signal doit être désamianté pour éviter une catastrophe écologique que tout le monde redoute, y compris le député de la Gironde, Benoît Simian.
Si le bâtiment venait à s'effondrer dans l'océan Atlantique, ça serait une catastrophe écologique parce que c'est un bâtiment qui est amianté. Un bâtiment qui se situe à proximité de l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire d'Europe. Donc vous imaginez les conséquences sur notre environnement.
Perché sur la dune, le Signal ressemble à un navire échoué, un navire malmené, tagué, aux vitres brisées. Jean-José Guichet, un des copropriétaires.
Vous êtes juste devant mon appartement, ce qu'il en reste. C'est-à-dire j'étais au premier étage et... La fenêtre de droite, c'était la chambre de mes filles. À gauche, c'était notre chambre. Et on avait un traversant, c'est-à-dire qu'on avait un appartement qui voyait côté terre et côté mer. Je ne vous cache pas qu'on y était tous très attachés, bien que ce soit un immeuble de forme cubique. C'était un HLM. Non, c'est un immeuble qui était très, très entretenu. C'est moi qui, en partie, qui m'occupais de l'entretien dans le cadre du conseil syndical. Et... Quand on faisait quelque chose, on le faisait.
En 50 ans, la côte a reculé de plus de 200 mètres. Le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, les tempêtes ont peu à peu grignoté la plage. Jean-José Guichet n'a pu que constater impuissant l'ampleur du désastre.
Moi, quand j'ai acheté, je ne voyais pas la mer dans mon appartement. Ce qui veut dire que la mer était aux environs de 250 à 300 mètres. Vous voyez, là, en 50 ans, la vitesse d'avancement quand même de la mer.
Parce que là, la mer est au pied de l'immeuble.
Voilà, la mer est au pied de l'immeuble. Mais moi, j'étais à 100 lieues de penser que ça irait à cette vitesse-là. Où vraiment j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, c'est les grosses tempêtes qu'il y a eu en 1994, où là, des pans entiers de dunes ont absolument disparu. Ça veut dire que les avancées de la mer étaient de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres par an.
Tout comme les 74 autres propriétaires, Jean-José a été sommé de quitter les lieux il y a 4 ans. L'immeuble était trop fragilisé. C'est là que commence la bataille judiciaire pour obtenir une indemnisation digne de ce nom, car les autorités refusent de parler de catastrophe naturelle.
Il n'y a plus personne qui habite là, il n'y a plus de danger. Le préfet me dit, pour moi, il n'y a aucun danger. Donc, vous n'avez droit à rien. Terminé. C'est pas tout à fait comme au moment de Saint-Pierre, le phénomène de Charente et de la Vendée, où là, il y a eu une érosion terrible, mais il y a eu inondation aussi. On aurait eu des morts, là. Il y a longtemps que le problème, il serait soldé, hein, je peux vous dire.
Plusieurs recours devant la cour administrative, puis le Conseil d'État, n'ont abouti à rien. Jean-José s'est vu proposer 20 000 euros d'indemnisation pour son appartement de 110 mètres carrés. Une misère comparée aux 160 000 euros de valeur estimée.
C'est une histoire sordide, moche, avec beaucoup d'intérêt, et puis tout ce fric qu'on a gâché à se défendre, et puis... J'en ai assez maintenant, je vous le dis très sincèrement, de voir tous ces gens au niveau « vous n'avez droit à rien, vous ne rentrez pas, la loi n'est pas pour vous ». Non, c'est moche.
À l'Assemblée nationale, le député de la Gironde, Benoît Simian, défend ses administrés, mais il a dû finir par admettre que les propriétaires du Signal n'auraient pas accès au fonds Barnier, un fonds chargé pourtant d'indemniser en France les victimes du changement climatique.
Le fonds Barnier est un fonds qui permet d'indemniser les personnes victimes d'affaissement de terrain. Alors c'est le cas en zone montagneuse, c'est le cas en effet, vous parliez des falaises, il y a des propriétaires sur certaines côtes françaises qui ont été indemnisés via ce fonds Barnier. Mais en effet, sur la côte sableuse, et je pense notamment à la côte de la Nouvelle-Aquitaine, il y a aujourd'hui un vide juridique. La justice a considéré que l'érosion dunaire était une érosion lente, donc prévisible, donc non éligible au fonds Barnier.
Aujourd'hui, l'élu espère encore un accord financier à l'amiable. Les copropriétaires ont abandonné l'idée d'un recours devant la Cour européenne de justice, trop long et trop cher.
Et plus largement, l'érosion côtière menace toutes les côtes européennes. C'est ce que nous explique Ron Anuel. Il est analyste à l'Agence européenne de l'environnement et il est en ligne de Copenhague.
Aujourd'hui, c'est un phénomène qui affecte l'ensemble des zones côtières en Europe, plus fortement dans certains pays, dans certaines régions, la façade atlantique, le nord de l'Écosse, l'Adriatique, partie de la Baltique. Malheureusement, encore une fois, toutes les côtes en Europe sont affectées.
Et est-ce que ça s'aggrave ?
Aujourd'hui, les choses se sont aggravées par la réalité des effets du changement climatique, principalement par l'intensité, une fréquence plus élevée des tempêtes et un problème d'équilibre de sédimentation des côtes.
Et qui est dû à quoi ?
Qui est dû à des phénomènes naturels, pour commencer, mais aujourd'hui aussi par l'impact des sociétés, de l'homme sur les processus naturels, comme par exemple l'artificialisation de nos rivières, la création de nombreux barrages qui font que l'apport en sédiments par les rivières a été malheureusement complètement impacté, ce qui fait que le dépôt de sédiments sur les estuaires ou par transportation par courant est aujourd'hui beaucoup moins qu'il ne l'était.
Et dans certains pays, comme les Pays-Bas, on a relocalisé certaines communes.
C'est exact. Le plan néerlandais de relocalisation était de dire depuis 50 ans, nous construisons des digues. Nous ne faisons que construire des digues. Mais malheureusement, nous ne faisons que surélever ces digues. Et jusqu'à quel point allons-nous les surélever ? Donc, la solution, c'est de retrouver un équilibre. Donc, minimiser les inondations de façon à renforcer la capacité des rivières aussi à sédimenter les côtes. Donc le plan national, c'était de donner leur place aux rivières dans leur système naturel. Et pour ce faire, il a fallu effectivement envisager de déplacer des villages, voire des villes entières, et donc repenser la localisation des économies et des lieux d'habitation. Mais aussi, dans certains cas, créer un nouveau mode de vie, comme par exemple les habitations, voire les villes flottantes. Et ce qui est le cas de certaines villes aux Pays-Bas, ce sont des villes, effectivement, qui sont des villes aquatiques.
Ron Anuel avec Frédéric Lebel. Et pourtant, dans des pays comme l'Italie, on continue de bétonner la côte. Les derniers chiffres sont éloquents. Cécile Debarge, en 2060, le littoral italien pourrait n'être plus qu'une immense langue de béton.
Près de 7500 km de côte, dont un quart seulement resté à l'état sauvage. Voilà le chiffre qui pourrait balayer l'image de carte postale des plages italiennes bordées par les eaux turquoises. Un chiffre extrait d'un rapport de l'Association de protection de l'environnement WWF. Au total, 3300 km de paysages côtiers ont été transformés par des maisons, des hôtels, des immeubles, des ports ou des industries. Le sud de l'Italie, comme la Calabre, est particulièrement touché, mais c'est en Sicile que la situation est la plus critique. 65 km de côtes sont entièrement cimentées, 41 dans le Lazio, 29 en Campanie. C'est le point qui inquiète le plus Legambiente, association de protection de l'environnement, qui a regroupé ces chiffres dans un rapport intitulé « Vue sur la mer ». Car une loi existe depuis 1985 en Italie et prévoit un plan de sauvegarde des zones côtières sur un périmètre de 300 mètres depuis la ligne de côte. Pourtant, chaque jour, 48 mètres de côte sont transformés par le ciment dans le pays. Un phénomène qui accélère l'érosion, déjà favorisée par la montée des eaux à hauteur d'environ 3 mm par an.
En Espagne, certains essaient de protéger le littoral des appétits des promoteurs. C'est l'histoire de l'Algarrobico. Cet hôtel construit en Andalousie à une dizaine de mètres de la plage en plein cœur du parc naturel Cabo de Gata. Les écologistes se sont battus contre sa construction. Finalement, la justice leur a donné raison et a ordonné la démolition de l'hôtel. Mais pour l'instant, il est toujours debout. Un reportage de Laetitia Dive.
Construit à flanc de colline, l'hôtel El Algarrobico est un vrai mastodonte de 21 étages, conçu pour accueillir près d'un millier de vacanciers. Et lorsqu'on s'approche, on a le sentiment d'être face à un énorme paquebot qui domine la côte. Mais voilà, si les travaux ont bien commencé en 2003, ils ont été stoppés 3 ans plus tard pour cause de défense de l'environnement. La justice a finalement décidé que l'hôtel ne pourrait pas être construit et même qu'il devrait être détruit. Conseiller en urbanisme à la mairie de Carboneras, Salvador Alarcón expose la situation actuelle.
Aujourd'hui, tout le procédé judiciaire est terminé et il y a une décision claire du tribunal suprême espagnol. Désormais, il faut transformer le statut de cette zone où se trouve l'hôtel et la faire passer de zone constructible à zone protégée, vu qu'elle est située dans un parc naturel. On est en train de faire ces démarches.
Pour en arriver là, il a fallu batailler. Le gouvernement régional andalou, puis la commune de Carboneras, avaient donné leur bénédiction aux promoteurs immobiliers, prétextant que la zone de l'hôtel n'était pas protégée, contrairement aux alentours. Mais le permis de construire a été attribué sans prendre en considération la loi littorale, qui exige qu'une distance de 100 mètres minimum soit respectée entre le bord de mer et les édifices construits. Or, les clôtures de l'hôtel se trouvent à seulement 14 mètres de l'eau. À la mairie, on nie une quelconque responsabilité dans cette affaire.
La mairie n'a jamais été condamnée et personne ne s'est jamais opposé à la délivrance du permis de construire. Ce qui n'était pas légal au sens strict, c'est que cette zone reste constructible alors que le parc naturel avait été agrandi. À ce moment-là, il aurait fallu que ça change.
Alors pourquoi personne n'a-t-il agi avant que les travaux soient lancés? Même s'il n'ose pas la formuler trop fort, le conseiller en urbanisme a sa petite idée.
C'est bizarre qu'on se taise quand c'est si évident. L'hôtel n'est pas une petite maison construite dans un coin à l'abri des regards, il est immense. Je pense qu'il y avait des intérêts personnels, institutionnels.
Cet avis est partagé par Pilar Marcos, la porte-parole de Greenpeace sur le sujet. L'écologiste est convaincu que derrière cette construction, il y a une sombre affaire de corruption. Avec son organisation, elle milite depuis des années pour que l'hôtel soit détruit et que l'espace naturel soit restauré. Dans son bureau de Madrid, elle raconte ce long combat.
On a gagné plus de 22 procès, donc imaginez le nombre de litiges qu'il y a eu autour de cet hôtel. D'un côté, il envahissait une plage, ça relève de la loi littorale et donc de l'État. Ensuite, le fait qu'il soit construit dans un parc naturel. Là, c'est la responsabilité du gouvernement régional d'Andalousie. Enfin, il y avait la mairie qui continuait de reconnaître ces terrains comme constructibles.
Greenpeace a fait du chantier gigantesque de l'Algarrobico le symbole de sa lutte contre le bétonnage des côtes. Elle y a organisé de nombreuses actions pour sensibiliser l'opinion publique. Depuis que la Cour suprême a rendu son jugement, les actions militantes ont peu à peu cessé. Mais à l'organisation, on estime que la démolition du bâtiment tarde beaucoup trop.
C'est le gouvernement andalou qui a le pouvoir de lancer la démolition. Avec Greenpeace, on a assisté à des douzaines de réunions où ils nous ont assuré qu'ils souhaitaient appuyer sur le bouton pour tout détruire, mais qu'ils ne pouvaient toujours pas le faire parce que la justice n'avait toujours pas défini si le permis de construire était légal ou non, et que si jamais au final c'était illégal, il faudrait indemniser le promoteur immobilier avec de l'argent public.
Pour la porte-parole de Greenpeace, cet argument ne tient pas la route et l'hôtel aurait pu être détruit depuis déjà longtemps.
Il faut que le gouvernement andalou montre du courage et défende pour de vrai l'environnement. Une fois que les machines seront entrées sur le terrain, le promoteur immobilier pourra lancer des poursuites. Mais au moins, on aura récupéré le parc naturel.
Au gouvernement régional, justement, on assure pourtant en téléphone que tout a été mis en place pour que la destruction intervienne le plus rapidement possible et on se renvoie la balle avec la commune de Carboneras. Rafael Marquez est secrétaire général à l'aménagement du territoire.
L'Algarobico touche à sa fin. Par contre, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir le démolir. Mais ça, ça dépend de la mairie de Carboneras.
Et alors que personne ne semble vouloir assumer ses responsabilités, le maire actuel de Carboneras a récemment jeté de l'huile sur le feu en expliquant que maintenant que l'hôtel était en grande partie construit, lui aimerait le transformer en un centre pour personnes âgées qui ferait travailler des dizaines de personnes. Une aberration selon Pilar Marcos.
C'est comme si ce maire disait « Regardez, on dispose de cet argent qui a été volé, mais maintenant qu'il est volé, on n'a qu'à l'investir dans des activités pour les enfants. Cet hôtel est illégal et il le sera toujours. »
À l'heure actuelle, les écologistes restent sur le qui-vive en attendant la démolition de l'hôtel. Une démolition qui devrait coûter 7 millions d'euros au minimum aux Espagnols, selon les estimations de Greenpeace.
En Turquie, cette histoire qui illustre le climat étouffant dans lequel travaillent les journalistes, en particulier ceux de médias qui revendiquent leur indépendance. Le jeune quotidien Karar l'a appris à ses dépens. Anne Andlauer est en ligne avec nous d'Istanbul. Bonjour Anne.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Le 12 novembre dernier, ce journal a publié en première page un message à ses lecteurs et à l'opinion publique. Un message dans lequel il se dit victime d'un embargo publicitaire.
En effet, l'équipe du journal dit subir, depuis le premier numéro publié en mars 2016, des pressions intenses, systématiques et ininterrompues. Elles prennent la forme principalement d'un boycott de la part des entreprises publiques, mais aussi privées, qui feraient face à des mises en garde et même à des menaces pour les dissuader d'acheter des espaces publicitaires dans les pages de Karar. Les entreprises qui se risqueraient à ignorer ces mises en garde sont immédiatement rappelées à l'ordre, explique le journal, si bien qu'en feuilletant Karar, on est effectivement frappé par l'absence de publicité et donc, pour le quotidien, de recettes publicitaires. Notons que dans leur texte, les responsables du journal ne désignent pas explicitement la source de ces pressions. Tout le monde aura néanmoins compris qu'elles viennent du plus haut niveau de l'État turc, dirigé par le président Recep Tayyip Erdogan.
Mais cette histoire pourrait être tristement banale, Anne, quand on sait les conditions de travail des journalistes turcs employés dans les médias d'opposition. Mais le cas de ce journal est d'autant plus symptomatique que Karar n'est pas un titre d'opposition.
Oui, Karar, qui signifie décision, a été fondé en avril 2016 par une équipe de journalistes expérimentés qui écrivait jusqu'alors dans de grands quotidiens pro-gouvernementaux. A d'abord publié exclusivement sur Internet. Le titre existe sur papier depuis 3 ans et demi et diffuse aujourd'hui à un peu plus de 50 000 exemplaires. Sa ligne éditoriale peut être qualifiée de conservatrice et finalement assez proche des idées et des références politiques du pouvoir actuel, tout en n'hésitant pas à le critiquer à l'occasion. On ne peut donc pas dire que Karar soit un journal d'opposition, sauf à considérer que la moindre critique émise à l'encontre de Recep Tayyip Erdogan et de son gouvernement range immédiatement son auteur parmi l'opposition.
Visiblement, Karar est perçu comme une menace par le pouvoir.
Oui, comme une menace peut-être plus grande encore que les médias d'opposition traditionnels, car le lectorat cible de ce journal recouvre partiellement la base électorale de Recep Tayyip Erdogan. Or, on le sait, le président turc est allergique à toute critique, en particulier quand elle vient de sa propre famille politique. L'objectif de cet embargo publicitaire est donc d'asphyxier un journal qui dérange, car il révèle les lignes de fracture dans la base électorale et dans le parti d'Erdogan, lesquelles sont beaucoup moins monolithiques qu'on ne le pense.
Et cette stratégie, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que l'existence du journal est aujourd'hui menacée?
Il est clair que les pressions visant Karar ont empêché le journal de se développer. En plus de ses chroniqueurs vedettes qui sont la vitrine du quotidien mais qui ne travaillent pas dans ses locaux, l'équipe de rédaction qui a subi au printemps un plan de licenciement ne compte plus que 7 personnes. 7 journalistes qui, chaque jour, rédigent et mettent en page le quotidien et n'ont pas le temps de sortir du journal pour faire des reportages. Karar est donc davantage à ce stade un journal d'opinion, sans moyen de s'agrandir et de publier, par exemple, des suppléments livres ou culture, comme c'est le cas de beaucoup de ses confrères. Il survit grâce à l'argent de ses propriétaires et grâce au crédit public fourni au secteur de la presse, qui sont toutefois minimes puisqu'ils sont indexés sur les recettes publicitaires de l'année écoulée. L'équipe du journal affirme toutefois vouloir continuer coûte que coûte, mais elle craint des pressions encore plus fortes dans les mois qui viennent. C'est cette crainte qui les a poussés à prendre à témoin leurs lecteurs et l'opinion publique.
Merci Anne.
À bientôt, au revoir.
Accent d'Europe avec à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur Internet sous l'onglet émission ou bien sur les réseaux sociaux et bien sûr dès demain même heure sur cette antenne.